Nous allons poursuivre notre étude de l'Apocalypse. Nous étions au chapitre 6, alors on va relire les versets ensemble avant de commencer l'exposition du texte. Alors Apocalypse 6, versets 1 à 8. Apocalypse 6, versets 1 à 8. Et je regardai, lorsque l'agneau eut ouvert un des seaux, et j'entendis l'un des quatre animaux qui disait d'une voix de tonnerre, Viens, et vois. Or je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. Et lorsque l'agneau eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui disait, Viens, et vois. Et il sortit un autre cheval couleur de feu, et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Et quand l'agneau eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui disait, Viens et vois. Et je regardai, et voici un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une voix au milieu des quatre animaux qui disait, Une mesure de froment pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne gâte point l'huile ni le vin. Et quand l'agneau eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal qui disait, Viens et vois. Et je regardai, et voici un cheval de couleur livide, et celui qui était monté dessus, qui se nommait la mort, et l'enfer marchait à sa suite, et le pouvoir leur fut donné sur la quatrième partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, on va demander d'abord au Seigneur de nous éclairer, de nous guider dans notre étude, dans notre compréhension et surtout dans notre application des principes que le Seigneur veut nous apprendre. Alors, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous venons à ta présence. Nous nous apprêtons à étudier ce sixième chapitre du livre de l'Apocalypse dans lequel nous apprenons tellement de choses sur toi, sur nous, sur la terre, sur le décret de Dieu, sur la personne de Christ. Alors, notre Dieu, on te prie de nous éclairer, de nous guider, de faire en sorte qu'on comprenne le texte qu'on va étudier et qu'on l'applique dans nos vies, qu'il y a tellement de principes à l'intérieur de ces passages que l'on se doit de mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. On te demande que ton Saint-Esprit nous guide, nous éclaire, et on te demande qu'on puisse vraiment obéir aux principes que tu veux nous enseigner pour notre plus grande édification et pour ta plus grande gloire. On te le demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé aujourd'hui le message qu'on va étudier ensemble, Christ ouvre les quatre premiers sceaux, donc les quatre cavaliers et leurs chevaux. Alors, quand on regarde le texte, on voit que la division se fait assez facilement dans les versets 1 à 8. D'abord, on a les chevaux qui sortent avec leurs cavaliers et chacun a une couleur particulière. Alors, le premier qui sort, le cheval blanc, alors on croit que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui part pour que le royaume de Dieu soit étendu, qu'il prenne possession des âmes pour lesquelles il a payé sur la croix et sur son séjour sur terre. Dans les versets 1 et 2. Dans les versets 3 et 4, on a le cheval roux. Donc, on croit que c'est vraiment une manifestation de la persécution religieuse qui suivra quand l'Évangile sera annoncé. Bien entendu, cela va provoquer de l'opposition de la part du malin et de ses serviteurs. Alors, il va y avoir de la persécution religieuse et le Seigneur se sert de toutes ces choses-là pour faire avancer son royaume. Dans le troisième cheval qui sort, c'est le cheval noir. Donc, c'est vraiment l'idée de l'oppression économique On va regarder ça un peu plus en détail. Donc ça, c'est les versets 5 et 6. Et on a le cheval, le quatrième cheval qui sort, c'est le cheval livide. Et certaines versions utilisent le mot verdâtre ou pâle. Donc le cheval livide, ce sont, nous croyons, les souffrances communes de l'humanité et de l'Église dans les versets 7 et 8. Alors, vu que la semaine, on avait commencé un petit peu, on avait, dans les semaines précédentes, on avait regardé le chapitre 4 et le chapitre 5, je pense qu'il est nécessaire maintenant de faire une révision et de regarder un peu ce qu'on a vu jusqu'ici, de manière à garder une perspective sur l'ensemble. Alors, on avait vu, dans la deuxième partie on avait vu que le théologien qui s'appelle Herman Oxema, dans son livre Behold the Comet, an exposition of the book of Revelation, il donne un conseil, parce que lui, c'est un homme qui l'a exposé devant son église, le livre de l'Apocalypse, à trois reprises, et c'est un homme qui avait une très grande culture religieuse, et biblique. Alors, quelque part, c'est bon de suivre les conseils de ceux qui sont plus expérimentés que nous. Alors, il dit qu'on se devrait de considérer que le livre de l'Apocalypse, selon sa compréhension des choses, c'est que le livre se divise en deux parties. La première partie, c'est le chapitre 1 à 3, dans lequel le Seigneur se révèle à Jean et lui donne des messages pour chacune des sept églises. On avait vu cette partie-là. À partir du chapitre 4, aller jusqu'au chapitre 22, selon Oxema, et je suis d'accord avec lui, il dit que le thème de cette section-là, 4 à 22, c'est vraiment le thème suivant. Le remplacement graduel du royaume de Satan par celui de Dieu. Autrement dit, à partir de la chute, Satan a été, avait le royaume, il avait établi son royaume sur la terre, mais avec la venue de Christ, maintenant le Seigneur va vraiment remplacer ce royaume-là par le sien. Et on va voir que, dans le fond, l'avancement de tout cela va coûter très cher, aussi en termes de vie humaine, de souffrance et de toutes ces choses-là, mais que le Seigneur est souverain, il est au contrôle parfait de toutes ces choses-là, et c'est lui qui les dose, comme on pourrait dire. Alors, bien entendu, si la Bible dit que le Christ veut remplacer le royaume de Satan par son royaume, bien entendu, cela va impliquer une guerre. Alors, et on sait, d'après les Écritures, que cette guerre-là, la victoire finale de Dieu en Christ, est déjà acquise et elle est assurée pour deux raisons. D'abord, la résurrection de Christ et aussi son ascension au ciel. Et on vient de voir dans le chapitre 4 et 5 différentes idées qui sont nécessaires à la compréhension du reste du livre. La deuxième chose qu'on a besoin de se rappeler, c'est l'idée maîtresse du chapitre 4, qui est la suivante, qui est assez simple en fait, c'est que tout est dirigé depuis le trône de Dieu. Il n'y a rien qui ne se produit sur la terre qui n'est pas parfaitement contrôlé par le Seigneur lui-même. C'est la principale idée qu'on avait regardée et étudié dans le chapitre 4. Maintenant, dans le chapitre 5, il y a aussi une idée maîtresse. Donc, c'est la troisième chose qu'il faut se rappeler avant d'essayer de comprendre le chapitre 6. Le chapitre 5 a également son idée maîtresse. Et l'idée maîtresse du chapitre 5 était la suivante. Le livre scellé des sept sceaux est remis à l'agneau pour être révélé et aussi pour être exécuté. Et bien entendu, on avait vu dans ce chapitre-là que le tout avait été suivi de l'adoration universelle de Jésus-Christ. Alors, c'est intéressant de voir que maintenant le livre qui était dans la main droite de Dieu a été remis à l'agneau pour qu'il révèle son contenu aux croyants, et non seulement aux croyants, mais aux incroyants aussi, mais qu'il exécute les décrets, les décisions divines qui sont inscrites dans ce rouleau du livre-là dont il est mention dans le chapitre 5. Alors le livre tenu dans la main droite de Dieu a été remis à l'agneau, qui a été jugé digne d'en ouvrir les sceaux, c'est-à-dire de révéler le contenu aux croyants et d'exécuter aussi les décrets divins qu'ils contiennent. Alors bien entendu, ces décrets-là, c'est les décisions immuables de Dieu, ses desseins et les méthodes de sa providence. Qu'est-ce que c'est les méthodes de sa providence? Ce sont tout simplement les circonstances quotidiennes et détaillées de toute l'histoire de l'Église durant tous les siècles de son existence. Alors, c'est un gros programme, comme on dit. Alors, bien entendu, l'avancement de l'histoire de l'Église durant tous ces siècles-là va recevoir de la part de Satan et de ses serviteurs, que ce soit ses anges ou que ce soit les hommes qui sont non régénérés, va recevoir une violente opposition. Mais le Seigneur va nous indiquer quels moyens il va utiliser pour vaincre et pour juger ses ennemis, pour la marche progressive vers la victoire finale de son royaume à lui. Alors, pour donner une interprétation éclairée et correcte du passage, Apocalypse 6, verset 1 à 8, concernant l'ouverture des quatre premiers sceaux, nous devons de faire trois observations que le pasteur Oxema fait. Je me sers beaucoup de lui parce que je trouve qu'il a une vision très cohérente et très claire de l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Alors, les observations qu'il donne sont très judicieuses et je pense qu'il est bon de tenir compte de ce qu'il nous dit. Alors, dans son... il veut, à un moment donné, il veut établir le fait que les sept sceaux ont une signification générale. Alors, lui, il dit que... J'ai choisi dans son livre les passages qui parlaient de cela et je les ai fait traduire par Google. Maintenant, c'est une traduction un peu carrée, qu'on pourrait dire, mais il reste que l'idée qu'il veut mentionner est importante à considérer. Alors, il dit, prenant en considération, par conséquent, que l'unique thème important du livre de l'Apocalypse est le roi à venir et l'achèvement du royaume, et que le livre des sept sceaux doit être considéré comme symbolique du décret vivant et puissant du Tout-Puissant, dont le but ultime est la gloire du nom de Dieu à travers l'avènement du royaume de Dieu. Il dit, nous sommes sûrs de tirer la conclusion que les sept sceaux sont destinés à nous révéler les principaux aspects et les courants plus larges de l'histoire de cette dispensation, alors qu'ils coopèrent pour amener le royaume du Christ à sa consommation. Autrement dit, il est en train de dire que les sept sceaux, c'est l'ensemble de l'histoire de l'Église et des hommes, et que dans le fond, c'est la signification générale de l'ensemble du passage. Deuxième observation qu'il fait, il nous dit qu'on se doit éventuellement de prendre la décision concernant l'interprétation correcte du passage si les chevreaux qui sont mentionnés, est-ce que c'est des choses qui se produisent successivement ou si ces événements-là vont se produire plutôt simultanément. C'est-à-dire que lorsqu'il parle des quatre chevaux et de leur signification, est-ce que ça va être, disons, ça arrive au premier siècle, ensuite le deuxième, cheval, ça va être plus tard, et qui, ça va suivre comme ça. C'est ce qu'il veut dire par la succession. Lui, il dit que l'ensemble des choses qui sont mentionnées sont plus dans le sens de simultané. Il croit que ces choses-là vont arriver à des moments dans l'histoire et ils vont toujours être présents. Les quatre choses qui sont mentionnées dans les chevaux vont toujours être présents, mais cependant, des périodes de l'histoire, certaines choses vont avoir plus d'emphase que d'autres. Mais il parle de simultanéité. Je pense que c'est important de le voir comme cela. Sinon, ben là, on risque d'avoir des erreurs. Alors, lui, il croit, il dit au contraire, cela présente un aspect tel que l'on peut supposer d'emblée que ces quatre cavaliers sont simultanément sur Terre, et bien qu'à cette exception, maintenant l'un, maintenant l'autre, apparaissent avec force au premier plan, et donc ce mode d'interprétation ne peut être accepté comme le bon. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que si on voit, si on interprète les quatre chevaux comme étant successifs dans le temps, et qu'on pense que la deuxième va arriver uniquement après que le premier va être arrivé, il croit que c'est une erreur, et il voit l'ensemble des quatre contenus de ce que signifient les quatre chevaux comme étant des choses qui vont se vivre simultanément sur la Terre, avec une emphase particulière, dépendamment des siècles et des époques. Alors, c'est important qu'il mentionne cela, parce qu'il y en a qui suivent la méthode de la succession et ça amène des erreurs. La troisième observation qu'il fait et que je pense qu'il est nécessaire aussi, il dit que la méthode d'interprétation dispensationaliste insiste, eux, sur le fait qu'à partir du chapitre 4, l'Église est enlevée et tout ce qui suit, autrement dit, les choses qui sont mentionnées dans les chapitres 4, 5 et 6, que c'est des choses qui n'arriveront pas aux chrétiens, qui ne souffriront pas les choses qui sont mentionnées, parce que, étant enlevés, ils ne seront plus là pour cela. Alors lui, il croit vraiment que c'est une erreur, une très, très grande erreur d'interprétation. Et voici ce qu'il dit. Je vais encore une fois utiliser le passage dans lequel il mentionne cela et avec la traduction Google. Il dit, nous devons nous opposer à ceux qui voudraient renvoyer la réalisation de la prophétie contenue dans les sept sceaux entièrement à l'avenir lointain, de préférence à une période précédant immédiatement le retour du Seigneur. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que les dispensationalistes disent qu'à partir du chapitre 4, l'Église a été enlevée et que l'ensemble des choses qui sont décrites dans le reste du livre sont des choses qui n'arriveront pas aux gens de l'Église. Les gens ne souffriront pas les choses qui sont mentionnées dans ces chapitres-là. Et lui, il croit que c'est véritablement une erreur parce qu'il y a des preuves qui peuvent amener avec le développement de tout ce qu'il va annoncer que les croyants sont inclus à l'intérieur de ces souffrances-là qui sont annoncées. Alors, c'est de là son avertissement que, selon lui, cette interprétation-là, et il faut dire que c'est un réformé et non pas un dispensationaliste. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va étudier, on va se mettre à l'étude des huit premiers versets du chapitre 6. Alors, on se souvient que le rouleau du livre, ou le livre ou le rouleau, a été donné à l'agneau. La raison pour laquelle ça lui a été donné, c'est pour que son contenu soit révélé et qu'il s'exécute, il s'accomplisse. Donc, pour que ça s'accomplisse, les sceaux doivent être brisés, les sept sceaux doivent être brisés de manière à ce que les décisions immuables de Dieu viennent à exécution. Chose importante à essayer de réfléchir un peu lorsqu'on considère l'idée que la Bible utilise des chevaux pour parler à la fois que Christ sort sur un cheval blanc et le but de sa sortie, c'est de prendre possession de son royaume, d'établir son royaume pour remplacer celui de Satan. Quelque part, il y a l'image du cheval qui est utilisée. Alors, des fois, on peut se poser la question, pourquoi il utilise le cheval et le cavalier? On sait que c'est des symboles, mais il reste que souvent, quand on va avoir les réponses à ça, il faut regarder comment les Écritures, dans d'autres passages qui traitent de chevaux également, viennent nous expliquer un petit peu pourquoi l'image du cheval est utilisée. Une des raisons qui est mentionné par ceux qui font l'exposition du texte, c'est les chevaux dans les Écritures, c'est souvent associé à des notions de force, de terreur, de guerre et de conquête. Alors, on peut prendre quelques exemples. On va en prendre deux. Une dans Zacharie, le livre de Zacharie au chapitre 1, les versets 8 à 10. On va voir, on va faire la relation entre cette idée de conquête, de guerre, en utilisant l'image du cheval. Alors, Zacharie 1, versets 8 à 10, il dit: J'eus la nuit une vision. Et voici un homme monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes qui étaient dans le fond. Et après lui, des chevaux roux, bais et blancs. Et je dis: Mon Seigneur, qui sont-ils? Et l'ange qui me parlait me dit: Je vais te faire voir ce que sont ces chevaux. Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit et dit: Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Alors, on sait que le livre de Zacharie est un livre plein de symboles également, qui utilise l'image du cheval pour véhiculer l'idée que le Seigneur envoie des choses sur la terre et qui ont l'idée vraiment de la conquête et de la guerre, bien entendu. Un autre passage qui parle de cela, il pourrait en avoir plusieurs autres, mais j'en ai choisi seulement deux. On a celui de Job, le livre de Job au chapitre 39, les versets 22 à 28. Alors, on va lire le passage. As-tu donné au cheval sa vigueur? As-tu revêtu son cou de la crinière frémissante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement donne la terreur. De son pied, il creuse la terre. Il se réjouit en sa force. Il va à la rencontre de l'homme armé. Il se rit de la crainte. Il n'a peur de rien, il ne recule point devant l'épée. Sur lui retentit le carquois, la lance étincelante et le javelot. Bondissant et frémissant, il dévore l'espace. Il ne peut se contenir dès que la trompette sonne. Dès qu'il entend la trompette, il hennit, il sent de loin la bataille, la voix tonnante des chefs et les clameurs des guerriers. Alors, on voit par ce passage-là et d'autres passages que souvent les Écritures parlent du cheval comme étant un moyen pour la guerre. Alors, on va voir à l'intérieur des quatre chevaux, l'image des quatre chevaux, et on va en donner l'explication, que on voit que c'est. On parle des quatre êtres vivants ou des animaux qui donnent l'ordre au cheval de sortir. Alors, l'un après l'autre, les quatre chérubins ou les quatre êtres vivants ou les quatre animaux, dépendamment des versions, là, nous présentent un cheval et son cavalier. Alors, le premier qui nous est présenté, c'est celui du verset 1 et 2, le cheval blanc. Alors, on relit le passage. Dans la version Osterval, alors je lis les versets 1 et 2. Il dit: Et je regardai, lorsque l'agneau eut ouvert un des seaux, et j'entendis l'un des quatre animaux qui disait d'une voix de tonnerre: Viens et vois. Or, je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc et on lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Une chose à mentionner à l'intérieur de du chapitre, du verset 1 et 2 du chapitre 6, les commentateurs en général, les plus conservateurs, vont croire qu'il s'agit de Christ qui sort pour prendre possession de son royaume pour remplacer celui de Satan. Mais il y en a d'autres qui croient d'autres. Alors, on ne rentrera pas dans les détails et les explications pourquoi d'autres ont des compréhensions différentes. On va demeurer avec. Je pense que c'est. Il y a raison en croyant que c'est Christ qui prend possession de son royaume et l'image du cheval blanc. On va voir pourquoi toutes ces choses-là. Alors, beaucoup de commentateurs érudits, Oxyma, c'est sûrement son cas, et éminents, connus à leur époque et qui jouissaient d'une excellente réputation dans leur milieu, voient dans le cavalier qui monte le cheval blanc un symbole de la personne même de Jésus-Christ qui le monte. Alors, un autre commentateur, William Hendrickson, développe cette affirmation-là. Et lui, non seulement il affirme ces choses-là, mais il donne les raisons pour lesquelles il a choisi cette interprétation-là plutôt qu'une autre. Alors, bien entendu, ceux qui veulent avoir une compréhension, un développement plus complet, plus développé de l'idée, peuvent aller consulter l'ouvrage de William Hendrickson, Plus que vainqueur, l'Apocalypse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces arguments. Il y a 7 arguments. Et il utilise ces 7 arguments-là pour démontrer que son choix est le bon. Alors, le premier argument qu'il dit, et bien sûr, je ne vous donne pas l'argumentation complète, l'argumentation développée. Je ne fais que vous mentionnez les idées principales. Ceux qui voudront avoir un développement, ben ils n'iront qu'à aller dans son bouquin et de lire l'ensemble des choses qu'il dit. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est de voir que c'est pas une interprétation lancée en l'air comme ça. C'est basé sur des études, c'est basé sur des observations qu'ils ont fait au cours de leur histoire, au cours de leurs études du livre et du passage. Alors, la première observation qu'il fait, le premier raisonnement qu'il dit, pourquoi cette interprétation-là est correcte, c'est qu'il dit que cette interprétation-là s'accorde avec le contexte. Comme je viens de vous dire, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est important de voir que le contexte est respecté dans cette interprétation-là. La deuxième chose, c'est que dans le livre, il va dire pourquoi que son interprétation se base sur une étude approfondie des termes, des mots qui sont utilisés, comme par exemple la couleur blanche du cheval, parce que la couleur blanche du cheval, elle est mentionnée ailleurs dans les Écritures, et c'est de voir si tout s'harmonise. Il y a aussi l'idée qu'il a une couronne. Aussi, la couleur, la blancheur, c'est la couleur de la sainteté. L'arc et aussi le mot vainqueur et le mot victoire. Alors, il y en a qui ont fait des études approfondies des différents mots qui sont utilisés dans le passage pour se rendre compte que, dans le fond, une étude approfondie vient plus démontrer que le premier cheval qui sort et celui qui le monte est vraiment la personne de Christ. Une des raisons, la troisième raison qu'il utilise, et que je pense que c'est une de celles qui est le plus convaincante, c'est un passage parallèle qu'il y a dans Apocalypse 19, versets 11 à 13. Selon lui, il nous dit que ça impose cette interprétation-là. Alors, quand on lit Apocalypse 19, versets 11 à 13, ça dit « Je vis ensuite le ciel ouvert. » Et voici un cheval blanc. et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Alors, je pense que c'est un argument extrêmement fort parce que justement, ici, on identifie celui qui est monté sur le cheval blanc comme étant le Christ lui-même. Et là, on n'en doute pas parce que c'est dit le fidèle, le véritable, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Il n'y a seulement qu'une personne dont le nom équivaut à la parole de Dieu, et c'est Jésus-Christ, bien entendu. Donc ça, c'est son troisième argument, troisième raison pour laquelle il choisit de dire que le cheval blanc et celui qui le monte, c'est Christ lui-même qui part à la conquête de remplacement du royaume de Satan par le sien. Quatrième idée, il dit que l'idée que le vainqueur monté sur le cheval blanc représente Christ est en harmonie avec l'esprit et le but du livre de l'Apocalypse. Alors, bien sûr, il développe un peu plus cette idée-là dans son bouquin, mais moi, ici, c'est juste plutôt de mentionner qu'il y a plusieurs raisons. Autrement dit, c'est pas un choix capricieux, c'est vraiment un choix basé sur des études. Et la cinquième raison, c'est qu'il dit que cette interprétation-là concorde avec ce qu'on trouve dans d'autres passages des Écritures où il est mentionné que Christ va apporter l'épée sur la terre. Alors, quand on regarde Matthieu, par exemple, au chapitre 10 de Matthieu, verset 34, ça nous dit, c'est Christ lui-même qui parle dans le passage, il dit, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. » Alors, on voit que c'est un argument. Mais le sixième, c'est qu'il y a d'autres passages dans les Écritures. Il utilise un parallèle qu'il fait avec le psaume 45, les versets 5 à 7. Et dans le psaume 45, tout parle de la personne de Jésus-Christ. Alors, dans le psaume 45, versets 4 à 7, voici ce que ça dit. « Héros, saint à ton côté, ton épée, ta parure et ta gloire. Triomphe dans ta gloire, monte sur ton char pour la vérité, la bonté et la justice. Ta droite te fera voir des exploits terribles. Tes flèches sont aiguës, les peuples tomberont sous toi. Ils iront au cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, demeure à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Et la dernière raison pour laquelle il justifie son choix de cette interprétation-là, c'est qu'il nous dit que dans Zacharie, chapitre 1, verset 8 et les suivants, celui qui monte le premier cheval peut également aussi être identifié avec le Christ, qui est vraiment un appui supplémentaire à sa position. Alors, quand on regarde l'ensemble de l'idée qui est véhiculée par le verset 1 et 2, il y a vraiment plusieurs idées. Il y a l'idée de solennité, un cheval blanc. Premièrement, à la guerre, d'avoir un cheval blanc, ce n'était pas nécessairement une bonne idée, parce que ça mettait le cheval en évidence et l'ennemi pouvait... Et si l'ennemi savait que c'est le roi ou le chef qui était assis sur le cheval blanc, ça le rendait vulnérable. Alors, on pense que le cheval blanc, ici, c'est vraiment pour indiquer la sainteté de celui qui le monte. Et on parle de solennité. Alors, Non seulement Christ, il s'assit sur le cheval blanc, il n'a pas peur des ennemis, mais il avance avec cette idée-là. Et il y a l'idée du triomphe aussi. Et il y a l'idée de l'autorité qui est immuable. Alors on relit les deux versets et je regardai lorsque l'agneau eut ouvert un des seaux et j'entendis l'un des quatre animaux qui disait d'une voix de tonnerre, « Viens et vois. » Et je regardai. Et voici un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus avait un arc. Et on lui donna une couronne. Et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Il y a plusieurs choses à observer à l'intérieur des quatre versets, des expressions ou des mots ou des idées. Par exemple, on a la fameuse une voix de tonnerre. Alors ici, on parle, les quatre, on avait défini dans des leçons précédentes que les quatre animaux ou les quatre êtres vivants, dépendamment des versions, c'était les chérubins, les anges qui sont les plus proches de Dieu, les plus... alors, c'est eux qui commandent au cheval de sortir. Alors, la voix tonnante du chérubin. Alors, ça dit qu'il disait d'une voix de tonnerre. Alors, on voit que la voix est une voix d'autorité. Sors, monte, pars à la conquête. Alors, c'est vraiment une voix. Et il y a l'idée aussi de la blancheur du cheval et de celui qui le monte. La vision représente la progression triomphale du Christ et de son évangile dans le monde. Alors, le Seigneur est sur le cheval représente le début de l'avancement de son royaume sur la terre, qu'il va aller chercher les âmes pour lesquelles il a payé si cher. Il va les ramasser un derrière de l'autre et à travers des circonstances difficiles, mais que le Seigneur lui-même contrôle de façon très précise toutes ces choses-là. Alors, c'est vraiment la vision qui représente la progression triomphale du Christ et de son évangile dans le monde, et ceci sur la période de tous les siècles. Après, à partir, là, on parle du premier siècle, puis s'adressait à... Mais aussi, l'idée qu'il sort comme ça à l'intérieur, mais c'est la même chose va se répéter au cours de tous les siècles. Il va avoir une conquête de l'Évangile, il va avoir... Christ va conquérir son Église, âme après âme, royaume après royaume, pays après pays, langue après langue, etc. Alors, le blanc, dans les Écritures, c'est constant. Ça représente toujours la sainteté et la pureté. Autre mention, c'est que ça dit celui qui était monté dessus avait un arc. Alors un arc, on sait que à la guerre, les cavaliers se tiraient des flèches. Alors bien entendu, l'arc de guerre, ça représente le pouvoir militaire, ainsi que l'ensemble des armes en général. Le Seigneur va utiliser ce qu'on pourrait appeler, il va les utiliser souverainement, les flèches qu'on pourrait dire de grâce, et aussi les flèches de miséricorde, et aussi les flèches de jugement. On peut voir ça comme des images, des arcs où il va toucher quelqu'un. Certains, ça va être par la grâce, d'autres, ça va être par la miséricorde, d'autres, ça va être par le jugement contre ses ennemis. Alors, il sort avec un arc, alors il va s'en servir, mais pour des raisons différentes, pour des buts différents. Autre chose qu'on remarque, c'est vraiment la couronne. Alors, le cavalier qui monte le cheval blanc reçoit une couronne. Et bien sûr, la couronne, c'est une marque de victoire finale, de victoire assurée. Avant même de commencer, il est sûr qu'il va gagner. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les décrets et que tout ça va se réaliser. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas d'opposition. Bien entendu, le malin ne laissera pas envahir son royaume comme ça, sans riposter et sans opposer... s'opposer de façon très violente. Mais on sait que, dans le fond, la couronne, c'est un emblème d'autorité. Et c'est aussi un emblème de dignité. Alors, et de victoire assurée. Et à l'intérieur du passage, On voit aussi que la victoire, l'idée de la victoire est mentionnée. Quand on le relit, là, on parle. Je vais retrouver le passage, excusez. On lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Donc, le mot de vaincre, l'idée de vaincre et l'idée de remporter la victoire est mentionné à deux reprises. Pourquoi est mentionné à deux reprises? À cause de sa certitude. Alors, les mots vainqueur et victoire sont vraiment une indication de la certitude de l'issue de la guerre. Autrement dit, avant même de commencer, le Seigneur étant omniscient et connaissant l'avenir, il sait que Jésus-Christ, lorsqu'il commence son territoire, lorsqu'il veut prendre possession de son Église, des âmes pour lesquelles il a payé de son sang, il va les ramasser, comme on pourrait dire, et il va construire son Église. Alors, on arrive à la deuxième. Au deuxième cheval, qui est le cheval roux. Et plusieurs auteurs mentionnent que le cheval roux, c'est vraiment l'idée de la persécution religieuse. Bien entendu, si on croit que Jésus est celui qui est sur le cheval blanc et qu'il commence à prendre possession de son royaume, bien entendu, il va y avoir de la guerre, il va y avoir de l'opposition. Et on sait que toute personne qui a le moindrement étudié l'histoire de l'Église va très vite se rendre compte qu'il y a eu énormément de persécutions religieuses au cours des siècles et que ça continue de nos jours. Bien entendu, quand on parle, je ne sais pas, ici, l'Amérique du Nord, ou qu'on parle de l'Europe actuellement, il y a des endroits où la persécution peut être assez rigoureuse, violente. Mais en général, ça c'est quand même, on pourrait dire, on n'a pas une opposition si forte que ça, là, ici, en Amérique du Nord, ni en Europe, je pense. Mais au cours de l'histoire, la persécution religieuse a été omniprésente et elle a été, dans certaines périodes de l'histoire, extrêmement violente. Alors, ça dit dans le verset 3 et 4, et lorsque l'agneau eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui disait « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval couleur de feu, et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Alors là, je viens de vous lire les versets 3 et 4 du chapitre 6 dans la version Osterwald. Maintenant, je vais vous la lire dans la version Louis II, 1910, juste pour qu'on voit un petit peu les nuances dans les mots. Alors, ça dit dans la version 1910, « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval, roux, celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Alors, aussitôt que le premier cavalier s'est mis en route, le deuxième sceau est ouvert par le Seigneur Jésus-Christ, par l'agneau. Et les versions, c'est assez intéressant de noter ça, les versions traduisent différemment la couleur du cheval. Certaines versions vont utiliser « roux ». Alors, on sait que le roux, c'est un mélange de rouge et de feu. D'autres versions vont utiliser l'expression « couleur de feu ». Et d'autres versions, la King James, par exemple, vont utiliser le mot « rouge ». Donc, en anglais, si vous allez voir la King James, ils vont utiliser le mot « red ». Alors, la version, par exemple, second 21, va utiliser l'expression « rouge-feu ». Alors, je pense qu'en utilisant l'ensemble de la manière dont ça a été traduit, on peut avoir une idée de la couleur cheval, donc rouge feu, qui annonce, bien entendu, un massacre, qui annonce un bain de sang. Alors, le cavalier de se voit donner un grand pouvoir, celui d'ôter la paix. Et il a pour mission de produire des guerres et des conflits sur la terre et sur la scène internationale. N'oublions pas que les guerres sont sous le contrôle absolu du souverain, de Dieu lui-même. Ils ne sont pas laissés entre les mains des hommes, même si certaines organisations humaines prétendent que c'est eux qui sont les responsables des guerres. Bien sûr, les seigneurs peuvent l'utiliser comme cause secondaire, mais la cause première, c'est vraiment le décret de Dieu. Dieu permet ces guerres-là. Alors, le Seigneur les utilise pour deux raisons. Comme mesure punitive pour les païens et comme mesure purificatrice ou sanctificatrice pour les croyants. Chose intéressante à noter, et on va terminer avec cela pour aujourd'hui, c'est l'importance des guerres dans l'histoire de l'humanité. Alors, j'avais une note sur ce sujet-là que je vais vous partager. Les guerres ont vraiment une part importante dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, la Society of International Law, la Société du droit international de Londres, affirme que sur les 4000 dernières années de l'histoire des hommes, seulement 268 années ont été des années de paix, malgré le fait qu'il y a eu des signatures de plus de 8000 traités de paix. Imaginez-vous, 4000 ans d'histoire, sur 4000 ans, il y a seulement 268 années qui ont été des années de paix, malgré le fait qu'il y a eu 8000 traités de paix. Mais comme on le sait, les traités de paix des hommes, ça ne dure jamais bien longtemps. Ça dure aussi longtemps que ça fait leur affaire. Et j'avais pris cette information-là dans un bouquin que j'ai qui étudie la Bible dans son ensemble, qui s'appelle « Wilmington's Guide to the Bible ». C'est publié par Tyndale House, 1984, à la page 38. C'est très intéressant de noter comment la guerre va être un élément que Dieu va utiliser continuellement au cours de l'histoire des hommes. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera cette étude du passage des versets 1 à 8 dans notre prochain sermon la semaine prochaine. Alors, on va arrêter là.